Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de France Culture, dans Chrétien d'Orient, c'est avec Anne Boudor, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de langue et texte copte, que nous nous rendons en Égypte, sur les rives du Nil, pour nous plonger dans la vie d'un moine, un ermite, qui a vécu au 8e siècle de notre ère, et dont vous avez étudié la correspondance écrite sur un ensemble de terres cuites. Bonjour.
Bonjour.
Ces lettres fournissent toutes sortes d'indications sur la vie monastique en Égypte à cette période. Rapport entre ascètes, relations entre moines et laïcs, travail, prière, approvisionnement, alimentation, expression de sentiments divers. Elles permettent aussi d'entendre une voix, de cerner une personnalité particulière, en proie à de fréquentes contrariétés, dont la vocation monastique semble n'avoir pas été de soi. Alors de qui parlons-nous? Le moine Franguet, qui est-il?
Le moine Franguet, qui est-il? Probablement un villageois d'origine assez simple, qui a, à un certain moment de sa vie, difficile à cerner, traversé le Nil pour aller s'installer dans une tombe pharaonique, comme cela se faisait beaucoup à son époque, et donc il s'y installait comme ermite. Après sans doute une formation auprès d'un maître, il a vécu sa propre vie d'ermite.
Alors, il s'agit d'une correspondance sur terre cuite qui a été retrouvée par des archéologues égyptiens, je pense.
Non, par des archéologues belges, des archéologues égyptologues de l'Université libre de Bruxelles, qui étaient partis pour fouiller la tombe d'un vizir du pharaon Amenophis II. Et en fait, ils sont très vite tombés sur le niveau supérieur, qui était un niveau copte. Donc ils ont dégagé quelques structures et trouvé la première année une vingtaine de tessons inscrits, dont ils m'ont demandé, à Chantal Hurtel, ma collègue et à moi-même, de publier les textes. Donc nous avons accepté, c'était une petite documentation. Et puis au fil des années, la documentation a grossi au point d'atteindre plusieurs centaines et même un millier de textes. Et dans ce millier de textes, 600 au moins représentent ce qu'on peut appeler les archives de ce moine. C'est-à-dire à la fois une correspondance, mais aussi des petits exercices, tout ce qu'il faisait sa vie quotidienne, des petits billets.
Alors j'ai l'impression qu'on ne tombe pas dans une carrière aussi facilement sur un tel ensemble de textes. C'était une découverte pour vous, un émerveillement peut-être ?
C'était un vrai émerveillement et je pense un des plus beaux dossiers de ma carrière de chercheur, et surtout l'émerveillement durait d'année en année puisque de 20 on passait à 50, à 200, à 300 et à 500, et petit à petit se rendre compte que tout cela constituait les archives d'une seule personne, ce qui permettait de cerner une personnalité. Ses habitudes, sa vie quotidienne, ses relations, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel de trouver une documentation aussi homogène.
Alors pourquoi sur des terres cuites ?
Pourquoi sur des terres cuites ? Parce qu'à l'époque, et dans cette région particulièrement, le papyrus est très cher. Donc les gens préfèrent des supports moins chers, qui sont facilement accessibles, bien sûr, puisqu'il s'agit de vaisselle cassée qu'on récupère. Et puis, ce ne sont pas des textes qui sont destinés à durer, ce sont en général des lettres, des petits exercices. Donc pour des textes éphémères, ces supports-là conviennent très bien.
Et comment se faisait le transport donc depuis l'ermitage du moine Franguet jusqu'à son destinataire? Il y avait des porteurs, il y avait un système?
Il y avait tout un système de messagers, plusieurs intermédiaires. Puisque Franguet, en tant qu'ermite, se déplaçait assez peu, surtout dans certaines périodes liturgiques comme le carême, et puis aussi parce que les chemins étaient assez dangereux. Donc on hésitait beaucoup à se déplacer, donc on préférait envoyer des messagers. Les messagers pouvaient se perdre, les messagers pouvaient être attaqués, donc toutes sortes d'aventures peuvent survenir, qui expliquent que le message ne vient pas toujours à son terme.
Alors nous sommes en Haute-Égypte, sur la rive des morts, dites-vous. Pour expliquer à nos auditeurs, ces tombeaux pharaoniques sont abandonnés, sont ouverts, et à l'époque copte, ils ont été transformés en ermitage peut-être par des moines, par des communautés.
Oui, on est à Louxor, qui était à l'époque la plus brillante de la civilisation égyptienne, la capitale. Donc il y a beaucoup de temples et de tombes partout et sur les deux rives. Traditionnellement, la rive est est la rive des vivants et la rive ouest la rive des morts. Et ça fait partie, je dirais, de l'idéal monastique de se rendre sur la rive des morts pour y côtoyer davantage de solitude. Et aussi, pour une question pratique, parce qu'on y trouvait effectivement des tombes vides, soit qu'elles aient déjà été pillées, soit qu'elles étaient ouvertes, soit qu'on s'arrangeât pour les ouvrir, et les moines s'y installaient et y aménageaient des ermitages.
Est-ce que vous avez retrouvé des formules dans toute cette correspondance, donc vous parliez de centaines d'échanges, qui nous apprennent un peu plus sur sa personnalité? Est-ce que cet homme vous paraît plus vivant par toutes ces informations? Est-ce qu'il se confie? Qu'est-ce que nous apprenons par cette correspondance sur lui-même?
Alors sur lui-même, on apprend, sans apprendre, que sa vocation a certainement été assez difficile, dans des circonstances un peu, malheureusement, pas peu élucidées, mais en particulier, ses échanges avec une femme de son village montrent qu'il a dû partir pour des raisons qui ne sont pas claires et qui sont peut-être familiales, ou peut-être avait-il une vocation, mais n'avait-il pas envie de partir si loin de chez lui, de l'autre côté du Nil. C'est certainement une personnalité tourmentée qui se plaint beaucoup, qui se plaint d'être malade, et quand il dit malade, il faut probablement comprendre davantage dans un état de un petit peu dépressif, en tout cas de tristesse et de langueur. C'est quelqu'un qui est facilement autoritaire et même impérieux et même parfois très amer vis-à-vis de ses correspondants quand les choses n'arrivent pas assez vite ou quand les choses ne vont pas comme il veut. C'est assez surprenant de rencontrer quelqu'un qui se plaint toujours. Par ailleurs, on peut se dire que quand tout va bien, il n'a pas besoin d'écrire. Donc c'est effectivement quand ça ne va pas qu'il envoie des lettres. Mais ça renvoie l'image d'un moine un petit peu, je dirais, dont la vie était certainement difficile et qui a du mal à surmonter toutes les difficultés de la vie quotidienne.
Nous savons son âge, par exemple?
Malheureusement, aucune idée sur son âge. Nous avons un texte dans lequel, qui n'est pas adressé par lui, mais qui est adressé par quelqu'un d'autre et qui fait mention de lui en l'appelant Frangé le Petit ou Frangé le Jeune, qui doit dater de ses débuts. Mais quand a-t-il débuté? Est-ce qu'il avait 14, 16, 20? C'est très difficile de savoir. Est-ce que sa correspondance s'est étalée sur 10 ans, 20 ans? C'est aussi très difficile de savoir.
Il n'y a pas de date, bien entendu, sur ces
Il n'y a pas de date, aucune date. Tout ce que nous savons qu'il a vécu au 8e siècle parce que son nom est présent dans un acte juridique.
Tiens.
Du village voisin. Et il a été témoin de cet acte. Et l'acte est daté de 738.
Donc c'est de cette manière-là, en fait, que vous pouvez vous-même dater sa correspondance.
Exactement. Parce que sinon, c'est très difficile de dater les textes. Les textes ne sont pas datés. Ils font allusion à des difficultés de vie, à des dangers. Mais des dangers et des difficultés, il y en a eu à toutes époques. Il y a eu beaucoup de troubles la conquête perse au 7e siècle, la conquête arabe un peu plus tard. On ne sait jamais à quoi il est fait allusion, c'est jamais précis.
Alors vous parliez de maladie tout à l'heure. À cette époque, la maladie était certes un danger permanent, écrivez-vous, parmi beaucoup d'autres. Trois lettres font allusion à des temps difficiles, allusion qui se rencontre aussi hors de la correspondance de Frangé et dont on peine à percevoir à quoi elle fait référence. Une période de famine, une période d'épidémie ou des bouleversements politiques, peut-être consécutifs à la conquête arabe, des attaques de tribus bédouines. C'est très difficile de s'y retrouver entre tous ces événements par rapport au contenu même de ces textes.
Oui, c'est très difficile parce que comme ces gens étaient au cœur des choses et que tout le monde était au courant, ils ne prenaient pas la peine de dire exactement de quoi il s'agissait. Il est sûr que à cette époque-là, la pression fiscale de l'administration arabe s'était beaucoup appesantie. Il est probable que la vie quotidienne des gens était de plus en plus précaire, justement à la recherche d'argent pour payer ces fameuses taxes. Mais il peut y avoir aussi des attaques bédouines très très violentes, courtes, mais il suffit que l'ermite soit au cœur de cette attaque pour en parler.
Alors il y a une chose qui est très touchante, ce sont les formules de politesse qui sont utilisées et récurrentes dans la manière dont il s'adresse à ses correspondants. C'est Franguet, le pêcheur, qui écrit et salue sa bien-aimée maîtresse et sœur Tsiyé. « Je te salue abondamment de toute la plénitude de mon âme. » J'en ai trouvé une autre. L'humble Franguet écrit et salue son cher pieux Kourikos. Ensuite, je salue et j'embrasse la douceur de mes pères saints et pieux, Appa Isidore et son fils, mon frère Abraham. Ayez la grande bonté de prier pour moi, pour que Dieu m'assiste dans l'océan du monde, empli d'épreuves et de souffrances de toutes sortes.
Oui, ce sont de très belles formules. Et on voit à ces formules que Franguet avait vraiment pratiqué son art épistolaire en puisant, alors à la fois dans des formules qui sont assez stéréotypées, le fait de qualifier son interlocuteur de saint et pieux, le fait de saluer plusieurs personnes aussi pour être sûr de n'oublier personne, donc la personne à qui l'on écrit, mais aussi les gens qui sont autour. Cette image de l'océan du monde qui est très belle est typiquement pour moi l'exemple d'une formule que Franguet a dû trouver dans une de ses lectures. En tant que moine, il avait certainement reçu une éducation assez poussée en texte biblique et même en texte homilétique. En plus, il copiait des textes, donc il fréquentait beaucoup ces textes. Et cette image de l'océan du monde qui ne suffit pas à contenir la renommée de l'interlocuteur, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les sermons coptes, dans les titres des sermons. Dans cette correspondance, la rhétorique épistolaire est extrêmement intéressante à étudier.
Une culture religieuse nourrie d'Ancien Testament?
Beaucoup d'Ancien Testament, étonnamment. On est surpris de voir dans ses lettres, il fait beaucoup de citations aussi pour appuyer son propos, et de livres, les livres des rois qu'on ne s'attendrait absolument pas à trouver, ils ne font pas partie de l'éducation obligatoire, sont cités, des passages étonnamment rares. Donc c'est aussi intéressant parce que ça montre à quel point la culture biblique circulait à cette époque.
Dans Chrétien d'Orient ce matin, nous sommes avec Anne Boudor pour évoquer la vie d'un moine, Franguet, moine d'Égypte. Alors c'est basé sur un petit livre, une très très jolie publication, liée par l'édition. Nous mettrons les références bien entendu sur le site internet de Chrétien d'Orient. Parlons un petit peu maintenant de la langue, qui est vraiment le cœur de votre spécialité, de votre passion peut-être. Cette langue copte du 8e siècle, de quoi s'agit-il ?
Donc, le copte, pour dire les choses simplement, c'est la dernière phase de l'égyptien, de la langue égyptienne ancienne. Sa particularité, c'est qu'elle n'est plus écrite en hiéroglyphe, mais elle est écrite en caractère grec, avec un certain nombre de signes additionnels pour les sons qui n'existaient pas dans le grec. C'est une langue qui est donc en vigueur, qui apparaît au moment où le christianisme apparaît en Égypte. On a des manuscrits coptes à partir de la fin du 3e siècle, et qui sera donc la langue des chrétiens d'Égypte, grossièrement jusqu'au 12e siècle, de manière très vivante, après en déclin sous la pression de l'arabisation. C'est une langue... C'est de l'égyptien, du point de vue linguistique. C'est une langue qui est très vivante dans le sens où, alors contrairement au grec, elle peine à rendre les abstractions, mais elle peint très bien les émotions, les mouvements, les réalités quotidiennes. Voilà, c'est une langue aussi qui est différente du grec, mais très influencée par le grec, puisque non seulement l'alphabet est grec, mais il y a énormément de mots empruntés au grec à l'intérieur de cette langue.
Et je crois que certaines lettres ont été créées spécialement dans l'alphabet grec.
Voilà, six caractères ont été ajoutés aux lettres grecques pour pour rendre des sons chuintants ou gutturaux qui n'existaient pas dans le grec et qui existent dans l'égyptien.
Et le copte dont nous parlons, donc ce copte que vous avez retrouvé sur ces terres cuites du 8e siècle, est-il toujours utilisé par les coptes, par l'église copte d'aujourd'hui ou pas?
Alors oui, mais sous une autre forme. Le copte avait plusieurs dialectes, donc là nous parlons de copte saïdique, c'est-à-dire de copte du sud, qui en fait était la langue générale pour toute l'Égypte entre le 4e et le 10e siècle. Et ensuite c'est la langue du nord, qu'on appelle le bohérique, qui a pris la prépondérance et qui est maintenant toujours la langue liturgique des coptes.
Qui est chantée.
Voilà, qui sert évidemment beaucoup dans les offices et qui est même encore parlé par un très petit nombre de gens, de familles qui ont gardé cette tradition.
Des familles d'érudits peut-être?
Des familles d'érudits en général, exactement.
Qui parlent le copte entre elles comme d'autres pourraient parler latin sous nos latitudes.
Exactement comme ça.
D'accord. Et sur le monachisme copte, donc restons au 8e siècle, nous sommes en pleine période de bouleversement j'imagine, la conquête arabe, le changement de pouvoir politique. Que savons-nous sur cette présence du christianisme dans ces contrées de Haute-Égypte?
On vit en Haute-Égypte, spécialement dans cette région qu'on appelle la région thébaine de Louxor, presque le dernier siècle du christianisme. Les dernières traces de chrétiens, enfin de textes en tout cas, dans cette région date de la fin du 8e siècle. Il s'est passé quelque chose au 9e siècle, on ne sait pas exactement quoi, peut-être une épidémie, peut-être une telle pauvreté que les gens ont fui. C'est un cas assez unique. Plus au sud et plus au nord, le monachisme a continué à prospérer. La principale difficulté était effectivement d'arriver à faire face à la fiscalité très lourde de l'administration arabe. Donc, très souvent, dans les textes, dans les périodes postérieures, on a énormément de textes qui touchent à ça. Mais on voit bien que la littérature copte continue à être copiée, transmise dans les monastères, sans diminution, bien au contraire, au moins jusqu'au XIe ou XIIe siècle.
Et est-ce que ces ermitages, ces monastères, ces petites communautés étaient connectées entre elles par des réseaux de communication?
Alors oui, certainement. Du temps de Frangé, je pense que toutes les tombes autour, parce que la tombe qu'il habite est en fait au cœur d'un réseau de tombes. La nécropole était pleine de tombes et presque toutes les tombes étaient réoccupées par des ascètes. Donc il faut s'imaginer un endroit très habité. Et les habitants se rendaient probablement visite ou se rendaient des services les uns les autres. Ce qui est plus difficile à savoir, c'est qui avait l'autorité ultime sur toutes ces personnes. Frangé avait une certaine autorité. Est-ce qu'il était l'autorité ultime ou est-ce qu'il était lui-même soumis à une autre autorité? C'est très difficile à dire et ça dépend peut-être des périodes de sa vie.
Revenons à cette correspondance. Pourquoi, à votre avis, elle a été conservée sur une telle échelle?
Elle a probablement été conservée sur une telle échelle parce qu'il y a eu volonté de la part de Frangé de la conserver. On a longtemps hésité avant de croire ça, parce que c'était quelque chose d'assez difficile à imaginer, que déjà dans l'Antiquité, quelqu'un, un moine au 8e siècle, ait eu cette volonté d'archivage. Mais compte tenu de sa personnalité assez affirmée, et compte tenu surtout du fait qu'à l'intérieur de la tombe, on a trouvé un certain nombre d'ostracas empilés, mais vraiment rangés dans une faille, je crois qu'on peut dire qu'il avait l'intention de garder sa correspondance. Et puis n'oublions pas que les lettres qu'on a retrouvées en majorité sont des lettres qui sont écrites par lui, ce qui n'est pas logique. On aurait dû avoir les lettres de ses correspondants. Donc ce qui a dû se passer, c'est qu'il faisait revenir les lettres qu'il avait écrites, probablement avec l'objet qu'il demandait. Il demandait au messager de lui rapporter les lettres, et je crois qu'il les gardait. Comme il était aussi probablement un maître en écriture, où il avait besoin de toutes sortes de modèles. Donc je pense qu'il y a eu une réelle volonté d'archivage de sa part. Et ça, c'est exceptionnel, je crois aussi.
Vous avez utilisé un mot qu'il faudrait peut-être expliquer, ostraca.
Oui, les ostraca. Alors on regroupe sous le nom d'ostraca, justement, ces tessons de poterie inscrits. C'est un mot grec qui désigne au départ une coquille d'huître et qui servait au vote à Athènes et qu'on a récupéré, en fait, les archéologues ont récupéré pour les appliquer à ces supports éphémères. Ça regroupe les tessons de poterie et les éclats de calcaire qu'on trouve très facilement dans cette région où les falaises calcaires sont tout près.
Et qui sont utilisés comme moyen de, comme support d'écriture jusqu'à une époque récente ou c'est
alors,
vraiment très spécifique à une.
Ça, c'est très spécifique à cette région et à certaines autres régions en Moyenne-Égypte aussi. On trouve plus beaucoup d'ostracas après le 9e ou 10e siècle, je dirais.
Alors j'ai l'impression que c'est un chantier qui est en cours. Vous continuez à travailler sur ces correspondances, ce qui veut dire qu'on retrouve d'autres textes ou vous retravaillez sur des textes que vous avez déjà découverts?
Les deux. D'une part, la mission belge a entamé la fouille de la tombe qui est à côté de celle où vivait Frangé, et où il y avait aussi apparemment un ermitage. Des textes ont été trouvés en petite quantité, beaucoup moins importante, mais les structures sont beaucoup mieux conservées. Et puis nous continuons à travailler sur les textes parce que nous n'avons pas élucidé tous les mystères, tous les détails de ces textes.
On a l'impression quand même, en vous écoutant et en lisant ce merveilleux petit livre Frangé, moine d'Égypte, qu'il y reste tant de choses à découvrir.
Beaucoup.
En termes d'archéologie, pardon, et dans la correspondance aussi. Mais en archéologie.
En archéologie, c'est sûr. Beaucoup de fouilles sont en cours en ce moment dans cette région de la rive occidentale de Louxor. Et on trouve tout le temps de nouveaux textes. Beaucoup sont encore dans les musées à attendre des éditeurs qui ont été trouvés dans des fouilles au cours du XXe siècle. Et puis, beaucoup de textes ont été édités au début du XXe siècle très vite et traduits, plus ou moins bien, souvent bien, mais très peu commentés, donc très peu utilisés. Et il faut aussi faire ce travail de réinterprétation des textes à la lumière de ce qu'on trouve maintenant.
Dernière petite question sur le contemporain. On peut aller facilement dans cette partie d'Égypte maintenant?
Oui, sans difficulté. On est très bien accueillis. Je pense que le risque n'est pas plus grand que dans n'importe quelle autre partie du monde. Et c'est très... Oui, on peut y aller. Il faut y aller.
Merci beaucoup, Anne Boudors. Je vous remercie infiniment d'être venue au micro de France Culture. Nous étions ce matin avec Anne Boudor, Frangé, moine d'Égypte, une correspondance sur Terre cuite au 8e siècle, dans publié Lis et parle édition. Nous mettons bien sûr les références complètes sur la page de l'émission. Je remercie Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard et Emmanuel Couturier pour la réalisation de cette émission et nous retrouvons maintenant le service protestant. Merci.